Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débat, de point de vue. C'est votre 18-20 dans une poignée de secondes, le journal, toute l'actualité de ce mardi 20 juillet. Dans 20 minutes, il est en charge du commerce extérieur de la France. Le ministre Franck Riester en studio. Est-ce qu'après la pandémie, nos entreprises repartent à l'export? On va lui poser la question. 18h30, le débat des grandes voix avec ce soir le sondeur Jérôme Sainte-Marie et Stéphane Vernet de Ouest-France. On va notamment parler de la droite réunie cet après-midi à huis clos pour parler de la présidentielle. Vous réagissez bien sûr au 39-21. Je vous attends. Et puis à 19h15, votre club des idées, bien sûr, les inondations qui ont touché l'Allemagne, la Belgique, mais également l'Est de la France. En France, comment sont gérés les risques et comment les villes repensent leur territoire pour éviter ces crues? Vous intervenez avec plaisir au 39-21. Mais avant cela, toute l'info avec le journal présenté par Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Merci d'écouter Europe 1, il est 18h.
Les faits, s'ils sont avérés, sont effectivement d'une très grande gravité.
C'est l'affaire qui agite le monde et les plus hautes sphères de l'État en France. Le projet Pegasus, l'espionnage de plus de 50 000 personnes sur la planète. 1000 lignes téléphoniques en France ont également été surveillées.
Le corps de l'homme qui était en cavale depuis deux jours dans les Alpes-Maritimes a été retrouvé. Il se trouvait dans un endroit montagneux et escarpé. Les causes de sa mort ne sont pas pour le moment encore connues.
Mission réussie pour Jeff Bezos, le milliardaire américain, a été aujourd'hui avec trois autres passagers, les deuxièmes touristes de l'espace. Un bref voyage qui leur a permis d'apercevoir la Terre depuis les étoiles.
18 000 cas de contamination en 24 heures en France. La France est balayée par la quatrième vague. C'est la ruée dans les centres de vaccination, comme à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Le département le plus touché en France. Nous serons sur place dans ce journal.
La bourse, le CAC 40 clôture ce soir en hausse de 0,81% à 6346 points.
Et puis la tendance météo, Marlène Duré. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Thierry. Du soleil et de la chaleur demain avec simplement quelques averses en montagne. Un soleil qui mettra quand même un petit peu de temps à se montrer dans le sud-ouest. Les grisailles matinales habituelles. Météo complète à la fin du journal.
À tout à l'heure Marlène.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est l'affaire qui secoue en ce moment le monde diplomatique, le projet Pegasus.
Oui, l'espionnage à échelle mondiale par le Maroc de journalistes et de dissidents via un logiciel israélien. Une affaire qui a donné lieu cet après-midi à un vif échange à l'Assemblée entre Alexis Corbière, député de la France Insoumise, et Jean Castex. Écoutez.
Dimanche dernier, un consortium international de 17 médias nommé Forbidden Stories a révélé l'existence d'un vaste réseau d'espionnage mondial via les téléphones portables nommés Pegasus. Ce réseau, fondé sur un logiciel provenant de NSO, groupe privé très proche du gouvernement israélien, serait à l'origine de la surveillance massive de 50 000 personnalités politiques, journalistes, avocats, militants, citoyens et entreprises à travers le monde. En France, un millier de nos concitoyens seraient concernés. Avec Pegasus, il ne s'agit pas d'une cyberattaque privée, mais bien d'un acte d'agression d'État contre État. Le gouvernement français, pour l'heure, n'a fait connaître aucune réaction officielle, si ce n'est quelques propos évasifs de son porte-parole. Pourtant, c'est notre souveraineté et notre indépendance qui sont en cause. Étiez-vous au courant de ces faits graves avant les révélations de la presse? Savez-vous d'ailleurs si certains d'entre nous, ici sur ces bancs, sont concernés par cet espionnage? Enfin, quelles sanctions allez-vous engager contre les pays qui ont utilisé ce logiciel, notamment le Maroc, mais aussi le gouvernement israélien?
Les faits que vous venez de rapporter, s'ils sont avérés, sont effectivement d'une très grande gravité. Nous avons donc ordonné des investigations sur leur matérialité, investigations qui n'ont pas abouti, et il ne m'est donc pas possible de m'exprimer à ce stade devant la représentation nationale et devant la nation.
Voilà, c'était à 15h donc à l'Assemblée nationale. Pegasus, c'est 50 000 lignes téléphoniques surveillées à travers le monde, parmi lesquelles 1000 numéros français. On le sait, hein, depuis avant-hier, des journalistes, des patrons de presse ont été écoutés. Et ce qu'on apprend ce soir, c'est que c'est allé encore plus loin. Emmanuel Macron a lui-même été espionné, Nicolas Feldman.
Oui, Emmanuel Macron qui figure sur les listes des téléphones espionnés du temps où il était ministre de l'économie. Alors a-t-il été écouté quand il est devenu président? Difficile à dire pour le moment. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il a gardé depuis le même numéro de téléphone. Parmi les autres téléphones espionnés, on trouve l'ex-premier ministre Édouard Philippe ainsi que sa femme. Figurent aussi 14 ministres. Voilà pour les premiers noms de personnalités dont on vient d'apprendre, dont ces téléphones ont été infectés par ce logiciel Pegasus. Toute la question maintenant, c'est de savoir quelles données ont pu être recueillies et surtout au profit de qui. Pour l'instant, le cas du Maroc est avancé.
Voilà, révélation donc ce soir par le journal Le Monde. On va bien sûr, pendant ces deux heures, en parler largement. Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1, nous a rejoint. Bonsoir Louis.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
D'abord Louis, vous avez une première réaction à l'instant de l'Élysée.
Oui, l'Élysée est tout à fait conscient que ces accusations, en tout cas, sont très graves. Et donc l'Élysée réagit. Voici la réaction. Donc, on nous dit, si les faits sont avérés, ils sont très graves. Toute la vérité sera faite. Et ensuite, l'Élysée se satisfait que certaines victimes aient déjà porté plainte et que des enquêtes soient en cours. Et l'Élysée aussi termine sa réaction en expliquant, en rappelant l'encadrement du travail des services de renseignement et notamment la loi de 2015 qui est extrêmement stricte, notamment le travail de renseignement sur la question des mises sur écoute et de l'utilisation des techniques de renseignement concernant les journalistes et les avocats.
Louis, c'est un vrai scandale politique. Qui gère ce dossier au sein de l'État en ce moment ?
Alors, au sein de l'État, ça fait plusieurs heures, hein. Ça fait depuis même hier soir, enfin depuis dimanche soir en réalité, mais tout s'est accéléré aujourd'hui, puisque l'Élysée a été informée de la publication maintenant là, des révélations donc, du Monde et du consortium de journalistes. Et donc, c'est essentiellement deux organismes à ce stade, le SGDSN, le Secrétariat Général à la Défense et à la Sécurité Nationale, qui est dirigé par un préfet. Et donc, c'est un organe qui dépend de Matignon et qui s'occupe de la sécurité, de la sûreté de l'État, qui aussi s'occupe de vérifier que les moyens mis en place permettent de sécuriser notamment les liaisons téléphoniques du président, de ses collaborateurs. Et ensuite, il y a un autre acteur qui est rentré en jeu, c'est le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, ouais. Laurent Nunez, qui était ancien secrétaire d'État à l'intérieur. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il n'y a pas uniquement des ministres qui ont été ciblés, il y a des collaborateurs aussi du président, notamment le conseiller Afrique, Franck Paris. Et on apprend également que Alexandre Benalla, était sur les listes
qui ont été garde du corps du président Macron.
Voilà, sur les listes utilisées par le logiciel NSO.
Didier François, spécialiste des questions de sécurité, nous a rejoint également en studio. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
À quoi ça sert ce logiciel? Logiciel, il faut le rappeler, israélien.
Alors, c'est extrêmement simple. Hein. C'est un petit logiciel qui a été créé dans un premier temps en 2016 et puis qui maintenant, depuis 2019, marche quasiment tout seul. Ça permet de prendre le contrôle de votre téléphone sans que vous en ayez la moindre idée. Ouais. En fait, donc, ça a accès. C'est comme si c'était vous qui l'utilisiez, mais vous ne le voyez pas. Donc
on n'a aucune preuve, en effet, que ça fonctionne. En tout cas, que notre smartphone est...
Il faut vraiment travailler dessus, ouais, pour pouvoir le détecter. Donc, ça allume votre micro, ça a accès à l'ensemble de vos messageries, y compris cryptées. Ça a accès à vos photos, à vos conversations téléphoniques. Comme ça allume le micro, si vous écoutez le téléphone et que vous avez une conversation dans une pièce, quelqu'un qui est à X milliers de kilomètres peut écouter la conversation dans la pièce. En fait, ça prend totalement le contrôle de votre téléphone, que ce soit un iPhone ou que ce soit l'équivalent PC, un Android.
Et il n'y a aucun moyen de protection ?
Alors si, il y a des moyens de protection, évidemment, mais le premier moyen de protection, comme d'habitude, sur ce genre de choses de sécurité, c'est de ne pas utiliser le téléphone dans les réunions confidentielles. Bien sûr. La première chose qui est faite dans toutes les réunions confidentielles, on laisse les téléphones à la porte. La deuxième chose, c'est le petit système qui est le système de cache de Faraday, qui permet de mettre le téléphone dans quelque chose qui ressemble vaguement à une pochette, mais qui en fait empêche les ondes de communiquer. Et là, donc effectivement, il n'y a plus de possibilité d'agir, mais ça ne lui a pas empêché de pouvoir aspirer tout ce qui est contact, etc., etc. Alors après, on a quand même aussi en France la chance d'avoir une entreprise qui s'appelle Tetris et qui, elle, a développé un logiciel. C'est des anciens de la direction technique de la DGSE qui l'ont mis en place, qui permet de vérifier sur les téléphones si oui ou non ils ont été infectés par, ouais, par ce virus, qui est un virus qui est un logiciel, hein, d'espionnage. Et donc, voilà, on est les seuls avec les Américains à avoir, dans les pays occidentaux comme ça, une capacité de vérification. Mais c'est un peu lourd quand même. Hein.
Didier, vous restez avec nous, bien sûr. Louis Dragnel à nouveau, des ministres écoutés, des chefs de parti, on comprend bien sûr l'intérêt. Pourquoi des noms de députés, de second, de parti moins exposés? Quel est l'intérêt finalement?
Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que même entre amis, toutes les grandes puissances s'écoutent. Alors, ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais toutes les grandes puissances ont des services d'espionnage. Et nous, par exemple, la France, on a aussi un service de contre-espionnage qui permet justement d'essayer de parer aux tentatives des ingérences étrangères, ce qu'on appelle aussi les tamponnages. Enfin, il y a plein de techniques de renseignement qui sont utilisées. Et pourquoi, en fait, les grandes puissances... Et, alors, en l'occurrence, là, ce n'est pas une grande puissance, et d'ailleurs, c'est la nouveauté. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que d'habitude, on s'habituait à voir plutôt les Russes, les Turcs, ou encore la Chine qui s'intéressait à nos élites. Ouais. Et parce qu'en fait, là, il faut savoir quand même que l'espionnage, c'est un sport de riches et seules les grandes puissances peuvent se le permettre. Là, la nouveauté, c'est que c'est un pays qui n'est pas une grande puissance qui fait ça. Et donc, quel est l'intérêt? Je vais répondre directement à votre question. Ouais. Eh bien, ça permet de savoir ce qui se passe en interne dans les partis politiques, d'essayer de sonder les fractures qui peuvent diviser la société, d'essayer de savoir, par exemple, je vous donne un cas pour le Maroc. On voit que la France insoumise, par exemple, s'est exprimée sur la question du Sahara occidental, qui est un sujet épidermique pour le Maroc. Et donc, forcément, le Maroc peut avoir un intérêt, si en tout cas ces faits sont avérés, savoir ce qui se raconte au sein de la France insoumise, notamment avec Adrien Quatennens. Je voulais juste rappeler une toute petite chose, c'est que depuis quelques années, et Didier François a dit quelque chose de très juste, il y a une prise de conscience quand même au sommet de l'État de tous ces enjeux. Et donc le président, alors il utilise beaucoup ses téléphones personnels et du coup il prend des risques, mais il y a aussi des téléphones qui existent, ultra sécurisés. Il y a une application par exemple qui est disponible, que met en place les services de l'Élysée pour que les conseillers de l'Élysée entre eux puissent avoir des conversations sécurisées. Et c'est toujours le SGDSN, l'organisme dont on parlait tout à l'heure, qui s'occupe de ça. Et sinon, ensuite, vous avez la possibilité d'avoir des téléphones cryptés avec la société Thales, des téléphones Théorem, mais qui comportent quand même des inconvénients très difficiles d'utilisation, très lourds. Et très souvent, en fait, comme il faut que votre interlocuteur ait également un téléphone Théorem, eh bien, j'ai pu assister parfois à ce type de manipulation. Eh bien, ça ne fonctionne pas très bien. Et du coup, eh ben, les interlocuteurs de l'État s'appellent directement sur leur téléphone. Et du coup, on contourne le système.
Ils utilisent le Théorem pour venir, rappelle-moi sur mon téléphone.
Exactement, et ça, c'est du vécu.
18h10 sur Europe 1. Si vous venez nous rejoindre, je vous rappelle la principale information. On vient de l'apprendre à 18h. En 2019, information révélée par le journal Le Monde, les numéros du chef de l'État, du chef du gouvernement de l'époque, Édouard Philippe, et de 14 ministres alors en exercice, ont été sélectionnés pour une éventuelle mise sous surveillance par le logiciel espion Pegasus pour le compte des renseignements marocains. Didier François, qui est avec nous, spécialiste des questions de sécurité, est-ce que le Maroc peut revendre ses données et à qui finalement?
D'abord, en général, quand c'est un appareil d'État qu'il fait, c'est pas pour le revendre, hein, c'est parce qu'il en a un intérêt direct et qu'il veut l'exploiter. Après, il n'est pas absolument certain que les Israéliens n'aient pas mis un dérivatif sur le contingent de lignes que la société NSO avait fourni au Maroc, moyennant finance, et qu'ils ne se soient pas servis au passage sur ce qui se passait à l'intérieur. Honnêtement, à leur place, je pense que franchement, personne ne se gênerait. Donc, le sujet, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, c'est ce que disait Louis tout à l'heure, pour la première fois, des pays qui ne sont pas des grands pays du renseignement, qui ne sont pas des grosses puissances en termes de capacités techniques, ont eu accès à des capacités extrêmement importantes, parce que ce sont des capacités israéliennes. Les Israéliens ont mixé en fait un travail d'appareil d'État, puisqu'en fait, tous les logiciels, enfin le logiciel en question a été créé par des jeunes réservistes de l'unité 8200, qui est l'équivalent de leur direction technique, qui est un peu leur ANSA, et c'est 200 réservistes, mais qui travaillent toujours en fait pour le gouvernement israélien, de fait, puisqu'ils sont réservistes et ils ont signé les clauses de confidentialité. Et par ailleurs, si vous regardez la liste des 12 pays qui sont utilisés, qui sont les utilisateurs de Pegasus, vous voyez bien, la diplomatie israélienne est extrêmement présente. Vous voyez l'Inde, vous voyez des pays qui sont aujourd'hui vraiment des proches d'Israël.
Ragnel, juste pour terminer sur ce point, ça va être la question des prochaines heures. Ça fait 30 ans qu'on entretient des relations formidables avec le Maroc, qu'on déballe le tapis rouge. Ça pose la question des futures relations diplomatiques. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment on va se comporter avec le Maroc?
Bien, figurez-vous qu'on n'a pas une relation si simple que ça avec le Maroc. Sur la coopération militaire, ça fonctionne assez bien. La lutte antiterroriste, ça fonctionne assez bien. Mais il y a eu un précédent, je crois que c'était en 2015 de mémoire, avec l'interpellation dans les aéroports de Paris de Abdelatif Amouchi, qui est le patron de la DST marocaine. C'est le service de renseignement intérieur marocain. Et du coup, ça a cristallisé un peu les relations. Donc évidemment, pour l'instant, ce qu'il faut, c'est vérifier que tout ça est vrai. C'est pas parce que votre numéro figure sur une liste pour un potentiel ciblage que vous avez été ciblé. Ensuite, ça montre quand même une intention de cibler. Mais la question, la vraie question, c'est à qui profite le crime? Est-ce que le Maroc a fait ça dans son intérêt, ou est-ce que le Maroc l'a fait pour le compte d'un pays tiers? Parce que vous savez, il y a aussi un autre business. business dont on ne parle pas, et je termine par là, c'est le business du renseignement qu'on peut vendre aussi à d'autres puissances étrangères. Et ça permet à l'autre puissance étrangère de ne pas apparaître.
Merci à vous. On va bien sûr en continuer à en parler ce soir sur Europe 1. Louis Dragnel, Lydie et François, grand merci. 18h14 également dans l'actualité, Sophie Tussaud, la fin de la traque pour retrouver l'homme en cavale depuis dimanche.
Oui, Marc Floris, soupçonné d'avoir tué une femme près de Saint-Tropez, était recherché depuis dimanche. Le corps d'un homme correspondant au fugitif a été retrouvé dans le village de Gréolières, dans les Alpes-Maritimes, où vous vous trouvez, Frédéric Michel.
Oui, le corps de Marc Floris a été retrouvé à plusieurs centaines de mètres de son habitation dans un relief montagneux, accidenté, escarpé, où les recherches appuyées par des hélicoptères et des chiens, notamment un Saint-Hubert, ont permis à 13h09 d'identifier l'auteur présumé du meurtre d'une jeune femme 3 jours plus tôt dans le Var. Le colonel Nasser Boualam commande le groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes.
On a à la fois des équipes à pied et un dispositif aérien qui, combiné, permettent encore une fois de resserrer la zone en question. Et je dirais que la manœuvre répétée continue depuis dimanche midi et non-stop a procédé à mettre la pression sur l'adversaire et à le contraindre à se déplacer.
Si aucune piste n'est écartée, la thèse du suicide est privilégiée. Après 3 jours de traque, la pression est retombée à Gréolières, mais comme au plan de la Tour, dans le Var, où cet engrenage mortel a débuté dimanche avec le meurtre d'une mère de famille de 32 ans, beaucoup de questions restent sans réponse. Marc Malfatto, le maire de Gréolières.
Pas eu de panique, non, il y avait peut-être de l'inquiétude, puisque on recherchait, d'après ce que l'on disait, un personnage armé et dangereux, bon, ma foi. C'est les événements qui font que le personnage est devenu dangereux. Nous, les vivants, on va continuer à commenter des choses qui nous échappent, puisque la mort a emporté ces deux personnes.
Et demain, la commune du Plan de la Tour, dans le Var, rendra hommage à Dorian. Un rassemblement est prévu à 18h devant la mairie.
Frédéric Michel, à Gréolières, pour Europe 1.
L'autre information de cet après-midi à retenir, c'est une nouvelle étape importante dans le tourisme spatial. Le milliardaire américain Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, a effectué aujourd'hui son premier vol dans l'espace.
Oui, un vol depuis le Texas avec 4 personnes à bord de la fusée New Shepard sur laquelle son entreprise Blue Origin avait travaillé durant des années. Il y avait donc durant ce vol son frère, une femme de 82 ans, un jeune homme de 18 ans. Une expérience qui a duré une poignée de minutes lors d'Autriche.
Oui, la capsule avec 4 personnes à l'intérieur est comme un point blanc au milieu du désert, un point blanc qui s'est élevé vers le ciel. La capsule était au sommet de la fusée, puis s'est détachée. Ce sont des années de travail qui sont récompensées pour les ingénieurs qui ont conçu cette fusée et ce vol spatial vraiment depuis très longtemps. Il a fallu 4 minutes pour atteindre la frontière de l'espace. Le vaisseau grimpe à 105 km d'altitude. À ce moment-là, les passagers sont en apesanteur. Ils peuvent détacher leur ceinture un court moment et voilà ce que l'on entend avec les micros qui sont installés à l'intérieur.
Wow. On flotte. Regardez, regardez, à travers le hublot, c'est le vide spatial.
Oh, et puis regardez de ce côté, c'est incroyable, c'est tout noir.
Le noir, c'est le noir de l'univers. L'univers d'un côté, la courbe de la Terre de l'autre. Voilà le spectacle qu'on ne peut voir que depuis l'espace. La capsule est ensuite redescendue, freinée par 3 parachutes géants, et elle s'est posée de manière autonome dans le désert du Texas, quasiment à l'endroit exact qui était prévu. Voilà une étape supplémentaire qui doit permettre à l'avenir d'envoyer davantage de touristes dans l'espace.
Lors d'Autriche.
Merci beaucoup Sophie Tussaud, on vous retrouve bien sûr à 18h30 pour l'essentiel de l'info. La météo, Marlène Duré, du beau soleil encore ?
Oui, on se réveille sous le soleil. Demain, on notera simplement des entrées maritimes, un petit peu comme ce matin au sud de la Garonne. Dans les régions du sud-ouest, ça va se morceler en cours de journée. Et puis, dans l'après-midi, quelques averses sur les massifs montagneux, principalement le massif central, les Pyrénées, les Alpes. Quant aux températures, elles sont stationnaires. Allez, 26 à 30 degrés au nord avec 30 à Paris. Toujours des pointes à 31, 32 du côté de la Bretagne. Dans le sud-ouest, comptez 29 à 34 degrés. Et du côté du sud-est, 33 à 36 dans les terres et 27 à 30 sur la Côte d'Azur.
Merci Marlène. 18h30, nouveau point météo.
Europe 1, Thierry Dagiral.
18h18, dans un instant, Franck Riester, le ministre délégué chargé du commerce extérieur, nous rejoint en studio. On va parler, bien sûr, des dernières révélations du monde ce soir sur l'affaire Pegasus. A tout de suite, rendez-vous dans 2 minutes.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et à 18h, bientôt 20 minutes, le ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité est l'invité d'Europe Soir. Bonsoir Franck Riester.
Bonsoir.
Tout d'abord, bien sûr, ces révélations dans le cadre de l'enquête d'un consortium de médias internationaux sur le logiciel espion Pegasus, produit par la société israélienne NSO. Après des soupçons sur des journalistes français espionnés par le Maroc, une nouvelle information paraît donc ce soir dans le journal Le Monde. Des numéros de téléphone des membres du gouvernement figurent sur les listes révélées. Même celui du président Macron, celui de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Concrètement, Franck Riester, ça veut dire que le royaume du Maroc a pu aspirer l'ensemble des données contenues dans leur téléphone. Comment vous réagissez ce soir ?
Écoutez, si les faits sont avérés, les faits sont évidemment très graves. Et toute la lumière doit être faite. C'est ce que va faire la justice, puisque une enquête est ouverte par le parquet de Paris, comme vous le savez. Mais évidemment, c'est des faits qui sont très graves. Et on verra les conséquences de cette affaire. Mais ce qui est très clair, et une nouvelle fois, on en a un exemple ici, c'est que nous devons collectivement mobiliser beaucoup d'énergie pour faire en sorte que le cyberespace soit un espace où les droits qui s'appliquent dans le monde physique s'appliquent aussi dans le cyberespace.
Ça veut dire quoi, Franck Riester ?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le cyberespace, il y a des menaces, des opportunités formidables, mais des menaces considérables. Des menaces en matière de protection de la vie privée, en matière d'atteinte à des informations confidentielles, d'espionnage, de cyberattaques, de rançons qui sont organisées par un certain nombre de cybercriminels, d'atteinte à la vie privée, je l'ai dit, d'incitation à la haine. Bref, il y a toute une série de menaces très graves que nous devons absolument appréhender. La désinformation aussi, on l'a vu dans un certain nombre de cas. Et donc, ça doit être une de nos priorités à la fois nationale, européenne et internationale, de veiller à ce que le cyberespace, comme l'espace physique, ait des règles, que ça ne soit pas la jungle, que ça ne soit pas une zone de non-droit.
Mais ces révélations ce soir, ces attaques venant d'un pays ami, cela vous surprend ?
Écoutez, j'attendrai de voir exactement ce qu'est la réalité des faits. Bien évidemment, que ces faits sont graves s'ils sont avérés, et nous verrons le moment venu les réponses diplomatiques auxquelles il faudra procéder.
Ouais.
Mais ce qui est certain, au-delà de cet exemple-là, vraiment, c'est le défi considérable qu'il y a devant nous pour nos sociétés démocratiques, pour nos libertés individuelles et collectives, que d'appréhender avec beaucoup de force cette problématique-là. D'ailleurs, le président de la République l'a vu depuis longtemps. Rappelez-vous cet appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, dans le cadre du Forum de Paris, fin 2018, avec aujourd'hui des travaux en cours, réunissant des États, réunissant des ONG, réunissant des acteurs de la société civile, avec des comptes rendus des groupes de travail qui seront rendus dans le cadre du Forum de Paris en novembre 2021. Donc vous voyez que depuis longtemps, le président de la République a pris à bras-le-corps cette problématique. Il y a l'appel de Christchurch aussi sur la question de la haine en ligne. Vous voyez, il faut se mobiliser.
Je reviens, monsieur le ministre, à ces révélations ce soir, toutes chaudes, brûlantes. On vient bien sûr d'en parler dans le journal de 18h. Vous êtes ministre du Commerce extérieur, vous êtes au Quai d'Orsay. La France se positionne parmi les premiers investisseurs étrangers au Maroc. Est-ce qu'on peut imaginer des sanctions économiques ?
Non, écoutez, on n'en est pas du tout là. Là, il faut que la justice passe, il faut que la lumière soit faite. Encore une fois, si les faits sont confirmés, les faits sont très graves, et on verra les conséquences à donner le moment venu.
Est-ce que les ministres ne sont pas assez vigilants finalement ?
On a des procédures très strictes qui sont en place, avec des téléphones sécurisés, avec des communications quand il s'agit d'informations très confidentielles qui sont faites d'appels fixes par un système très sécurisé. Nos mails sont cryptés quand ce sont des mails confidentiels. Après, effectivement, chacun peut avoir son téléphone personnel pour communiquer au quotidien. Mais nous avons des procédures très strictes, à la fois avec des téléphones sécurisés, portables ou fixes, et des mails cryptés.
Il y a ce lien particulier, historique avec le Maroc. Certains pourraient dire même une certaine porosité entre les administrations françaises et marocaines. Ça va être compliqué de réclamer, de dire quelque chose au Maroc ?
Non, mais écoutez, la France affirmera sa souveraineté comme elle le fait quand c'est nécessaire. Mais encore une fois, la réponse devra être proportionnée et adaptée à l'étendue de ce qui sera démontré par la justice.
On est quand même tout de même, si jamais ces révélations sont bien vraies, loin de cette image sympathique, accueillante d'un pays touristique qu'on aime, nous, en France.
Non mais chaque pays a des dispositions de défense de ses intérêts sur le cyberespace. C'est légitime, mais ça doit être encadré. Et les pratiques doivent être absolument régulées. Régulées quand il s'agit d'atteintes très claires à la souveraineté d'un État autre, notamment un État ami. Ça nécessite, dans l'avenir, au-delà de ce que je vous ai dit au niveau international, de continuer l'effort de protection de notre souveraineté dans le cyberespace. Les moyens sont mis d'une façon plus importante pour lutter contre tous les types de criminalité sur le cyberespace. Il faudra continuer d'investir de plus en plus massivement pour nous protéger, pour protéger les intérêts supérieurs de la nation, pour protéger les professions qui doivent être protégées. Je rappelle quand même qu'il y a des politiques qui sont apparemment concernées par cette surveillance, mais il y a aussi des journalistes, des avocats. Quand on est attaché aux valeurs démocratiques, quand on est attaché à la liberté de la presse, on sait que ces professions ont des protections toutes particulières. Et donc nous devons veiller, à travers des investissements aussi dans la protection de ce cyberespace, à protéger ces professions-là qui sont si importantes à nos démocraties.
Autre sujet ce soir, Franck Riester, le projet de loi sur le pass sanitaire a été présenté aujourd'hui en commission, il sera débattu dès demain au Parlement. On le sait, il ne fait pas l'unanimité, notamment auprès des restaurateurs qui vont devoir contrôler leurs clients à partir du 1er août. Ils disent qu'ils ne sont pas policiers, vous comprenez leur position ou pas?
Écoutez, ce que je vois, c'est que nous sommes face à une quatrième vague très violente. Vous avez vu les chiffres d'aujourd'hui, 18 000 nouveaux cas, plus 150% en une semaine de cas. C'est jamais vu dans les trois premières vagues. Donc si on veut ne pas retrouver les mêmes contraintes de confinement, de couvre-feu que nous avons dû prendre dans les trois premières vagues, ouais. Si on veut tenter d'éviter ces mesures-là, il faut absolument faciliter et favoriser la vaccination. Nous avons un moyen de empêcher la circulation du virus, c'est le vaccin. Et s'il y a des atteintes, que ces atteintes ne soient pas trop graves. Mais... alors nous devons absolument veiller à recourir au maximum possible au vaccin. Et si on veut éviter la fermeture des restaurants, il faut laisser la possibilité à ceux qui sont vaccinés d'aller dans ces restaurants.
De nouvelles.
Et donc nous disons aux restaurateurs qu'on comprend ces contraintes supplémentaires. Mais franchement, ce sont des contraintes limitées par rapport à ce que seraient les contraintes si on devait fermer ces restaurants à court terme.
De nouvelles manifestations sont prévues le week-end prochain contre l'entrée en vigueur des nouvelles mesures. Ils étaient 115 000 le week-end dernier dans les rues du pays. Vous craignez qu'elles prennent de l'ampleur, ces manifestations anti-vaccins ?
Écoutez, je ne le souhaite pas, mais nous sommes dans une démocratie, contrairement à ce que disent parfois ces mêmes manifestants. Nous ne sommes pas dans une dictature, ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent, à condition que ce ne soit pas des insultes, que ce ne soit pas des incitations à la haine. Et on a vu que certains avaient des propos inadmissibles, odieux, ignobles, que nous condamnons avec beaucoup de force. Pour autant, nous sommes dans une grande démocratie où la liberté de s'exprimer est garantie, la liberté de manifester est garantie. Nous verrons quels sont le nombre de manifestants qui seront mobilisés. Mais nous le redisons, je le redis très clairement, c'est pour protéger nos compatriotes. C'est pour faire en sorte de lutter contre la circulation de ce virus. Et que la liberté des uns s'arrête à la liberté des autres. Et s'arrête aussi quand il s'agit de la vie des autres. Et nous ne pouvons pas continuer d'avoir des personnels dans le système de santé, dans les hôpitaux, qui ne se vaccinent pas, vu le risque qu'ils font prendre à celles et ceux qui sont fragiles dans ces établissements-là. Et nous devons faire en sorte de permettre à ceux qui sont vaccinés, qui font la démarche de se vacciner, de pouvoir garder la liberté d'aller dans un certain nombre de lieux. Faute de quoi, nous serons obligés de fermer ces lieux-là. Ce n'est pas ce que nous souhaitons.
Dernier point, très rapidement, tous les signaux économiques sont au vert. L'INSEE tape sur 6% de croissance en 2021. Est-ce que le variant Delta peut venir tout gâcher finalement?
C'est une des raisons aussi pour lesquelles il faut se vacciner, pour se protéger de ce variant-là. C'est pour préserver la croissance, la dynamique de croissance que nous observons, une des plus fortes de l'Union européenne. Rappel, une prévision de 6% en 2021. C'est absolument considérable. C'est le fruit des décisions qui ont été prises depuis 2017 de transformation du pays et de protection de tout notre outil économique pendant la crise. Appuyé avec le plan de relance, on a aujourd'hui le fruit des résultats des politiques qui sont conduites par le président de la République depuis maintenant 3 ans.
Le ministre délégué en charge du commerce extérieur, Franck Riester, ce soir sur Europe 1. Grand merci à vous.
Merci à vous. Europe 1.
Thierry Dagiral.
Allez, dans un instant, les titres de l'info, puis les grandes voix. Pegasus, bien sûr, espionnage entre États. On en parle avec le sondeur Jérôme Sainte-Marie et Stéphane Vernet de Ouest France. 39-21, vous prenez la parole si vous souhaitez réagir. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
18h30, l'essentiel de l'info avec vous, Sophie Tussaud.
L'affaire prend des allures de scandale d'État. Le journal Le Monde révèle ce soir qu'Emmanuel Macron a été espionné par le Maroc en 2019 via le logiciel israélien Pegasus. 14 ministres en fonction ont également été écoutés. L'Élysée promet que toute la lumière sera faite. Le nombre de contaminations s'emballe en France. 18 000 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures. Une hausse jamais vue provoquée par le variant Delta, assure Olivier Véran, le ministre de la Santé. Et l'objectif premier du gouvernement reste la vaccination. 40 millions de premières doses devraient avoir été injectées à la fin du mois de juillet, soit avec un mois d'avance sur le calendrier initialement prévu. À la traque pour retrouver l'homme en cavale depuis dimanche est terminée. Le corps d'un homme correspondant au fugitif a été retrouvé dans le village de Gréolières, dans les Alpes-Maritimes. Marc Floris, soupçonné d'avoir tué une femme près de Saint-Tropez, était recherché depuis dimanche. À la douleur et l'émotion et le recueillement en Belgique, une semaine après les inondations meurtrières qui ont coûté la vie à au moins 31 personnes. Une minute de silence a été observée dans le pays à midi. Et puis c'est une nouvelle étape importante dans le tourisme spatial. Le milliardaire américain Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, a effectué aujourd'hui son premier vol dans l'espace. Un vol d'une dizaine de minutes.
Merci beaucoup Sophie Tussaud, une nouvelle édition complète bien sûr à 19h. Marlène Duré, la météo demain, du beau temps.
Et oui, encore une belle journée, hormis la grisaille matinale dans le sud-ouest, au sud de la Garonne, et puis un ciel plus ou moins voilé en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va se réveiller sous un ciel bleu demain. Les entrées maritimes du Pays Basque, Hollande se morcelleront au fil des heures. Et puis l'après-midi, on prévoit aussi quelques averses en montagne. Les températures au petit jour, 14 à 19 degrés sur la moitié nord et 18 à 21 au sud, jusqu'à 22-23 près de la Méditerranée. Ça n'évolue pas beaucoup en journée. On aura toujours des pointes à 31-32 en Bretagne, 26 à 30 en général sur la moitié nord. Et puis en allant vers le sud, beaucoup plus de chaleur. 29 à 34 par exemple dans le sud-ouest avec 34 à Toulouse. Pas plus de 25-26 sur les plages de l'Aquitaine. Et encore 27 à 30 sur la Côte d'Azur, 37 parfois dans les terres provençales.
Merci beaucoup Marlène. On fait un nouveau point avec vous aussi à 19h. À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Allez, on ouvre le débat des grandes voix avec ce mardi soir à côté en studio, Jérôme Sainte-Marie, politologue, président de Pollingvox. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction de Ouest France à Paris. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Vous pouvez réagir bien sûr et je vous attends au 39-21 si vous le souhaitez. Tout d'abord, ces révélations, bien sûr, dans le cadre de l'enquête d'un consortium de médias internationaux sur le logiciel espion Pegasus, produit par la société israélienne NSO. Les numéros de téléphone, on le disait, dès 18h, des membres du gouvernement figurent sur les listes révélées, même celui d'Emmanuel Macron et de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Concrètement, ça veut dire que le Royaume du Maroc a pu aspirer l'ensemble des données contenues dans leur téléphone, Stéphane Vernet ?
Oui, moi je ne suis pas un spécialiste de cybersécurité, je ne sais pas comment tout ça fonctionne, mais si j'ai bien compris, c'est quand même, on est quand même face au nec plus ultra. C'est une technologie
avec Didier François,
d'ordre militaire. Ouais. Donc en fait, vous pouvez être infecté sans même avoir à cliquer sur un lien vérolé, vous ne vous en rendez pas compte. Et le logiciel en question est en capacité d'absorber tous vos contacts, vos photos, écouter vos conversations téléphoniques, et même sur des messageries cryptées, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'au moment où vous lisez sur votre écran le message crypté, en fait, type Telegram, etc., ou d'autres qu'utilisent les gens qui sont à l'Élysée ou à Matignon, en fait, le logiciel peut interpréter, peut détourner ou se saisir de la communication. Donc, effectivement, c'est très grave. Ouais.
Didier François, spécialiste des questions de sécurité, nous a rejoint justement pour cette partie des grandes voix, parce que lui connaît précisément ces logiciels. Comment ça fonctionne ? Ce qu'on se disait tout à l'heure, finalement, Didier, pourquoi un ministre, Franck Riester était il y a quelques minutes avec nous, pourquoi un ministre, pourquoi un chef d'État peut facilement se faire infecter par ce logiciel?
Parce qu'en fait, c'est le téléphone qui est visé, c'est pas le ministre.
Oui, bien sûr. Mais on le sait, les téléphones de ministre ou de chef de l'État sont
mais
pas,
oui, mais c'est pour ça qu'il y a des procédures.
Nous,
alors, bon, je veux pas dévendre un sujet qui est quand même assez conciliant, certes, mais il y a deux choses. Tout ce qui est secret, défense et classifié. Que ce soit les documents, les conversations, les décisions. Ça se prend dans des réunions où il y a des règles de sécurité extrêmement strictes. Les téléphones n'y ont pas place. On laisse nos téléphones à l'entrée, il y a l'espèce de petits c'est en bois, là, juste avant qu'on rentre, sur une espèce de commode, et tout le monde dépose son téléphone, qui est éteint, et voilà. Donc dans la réunion, ils ne peuvent pas écouter, parce qu'il n'y a pas de téléphone. C'est le truc le plus simple. Ensuite, quand il y a des décisions de type confidentiel ou secret défense, du SD ou du CD. Là aussi, utilisation de téléphones cryptés de type Théorème, mais qui sont très lourds pour la conversation quotidienne. Donc en fait, qu'est-ce que vont chercher les espions qui veulent écouter la conversation quotidienne d'un ministre? C'est de l'atmosphère, c'est de l'ambiance, c'est du renseignement politique. En fait, c'est dans quel sens il va, comment ça se passe, quel type de débat, qui est plutôt pour ci, qui est plutôt pour ça. Ça leur permet, à la veille d'une réunion, d'une grande réunion internationale, de comprendre la tendance, l'atmosphère. En fait, c'est ça qu'ils cherchent. C'est pas du SD, c'est pas du classifié.
Ou des éléments concernant la vie privée de ceux qui nous dirigent, quoi.
Jérôme Sainte-Marie, il faut une réponse politique. Et laquelle ?
Oui, probablement, mais de ce point de vue-là, je ne suis pas très optimiste, pour rien vous cacher. Puisqu'en fait, d'une part, pour l'affaire qui nous occupe, on parle du royaume chérifien, enfin, on parle du Maroc, tout simplement. Ouais. Mais derrière, c'est un peu plus compliqué que ça. Si on lit le dossier du Monde d'aujourd'hui, par exemple, eh bien, on s'aperçoit que cette société israélienne semble fonctionner en symbiose avec le ministère de la Défense israélien, et que c'est pas aussi, comment dirais-je, il n'est pas évident, en quelque sorte, que cette symbiose s'arrête uniquement au moment où cette société vend à un État. Mmh. Et il y a des contrôles techniques qui sont faits, etc. Et c'est quand même pas un détail que d'espionner le gouvernement français et son chef de l'État. Donc, ça, derrière le Maroc, il y a peut-être un peu plus que le Maroc. Donc déjà, c'est compliqué. Par ailleurs, il y a aussi un exemple récent, l'affaire des Wikileaks, qui avait été révélée par Wikileaks. L'espionnage de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, etc. Là, c'était par la NSO, c'est-à-dire par les Américains. Il ne me semble pas que notre riposte diplomatique avait été très énergique à ce moment-là.
Didier François, on en parlait, et la question vient d'être soulevée par Jérôme Sainte-Marie. Derrière le Maroc, en effet, il y a Israël qui est à l'origine de ce logiciel.
C'est une suggestion, en tout cas.
Non, mais c'est clairement, eux, c'est les fournisseurs de la technologie. Les Marocains n'ont pas développé la technologie eux-mêmes. On voit bien qu'Israël, particulièrement cette boîte NSO, qui est très, très liée à l'unité 8200. L'unité 8200, c'est l'équivalent des directions techniques de la DGSE ou de la NSA pour les Israéliens. C'est une unité extrêmement technologique. Elle est basée à Herzliya. Elle est à 3 km de la boîte NSO. Mmh. 200 des cadres, les ingénieurs qui travaillent dans la boîte NSO sont tous des réservistes. Ils font leur milouim de la 8200. Donc ils travaillent avec l'appareil d'État, ils ont tous les habilitations confidentielles défense, ils sont tous criblés, ils ont des officiers de sécurité. Donc évidemment, et si on voit la liste des 12 pays qui travaillent avec NSO et à qui a été fournie ses capacités d'interception, on voit l'Inde, gros travail de coopération antiterroriste et de coopération anti-pakistanaise avec les Israéliens. On le voit en Afrique, Togo par exemple, c'est des proches, Rwanda, le Maroc évidemment, l'Arabie Saoudite qui l'a utilisé contre Khashoggi. Or, ça a aussi permis le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël. Donc évidemment, le renseignement et les questions stratégiques sont des éléments de rapprochement et de diplomatie. Et on a dans du partenariat public-privé le déploiement d'une diplomatie de canal disons ce qu'on appelle du 1.5. C'est pas totalement officiel, c'est pas totalement pas officiel, c'est entre les deux, c'est bien contrôlé, ça fonctionne pas mal. Voilà.
Des révélations et beaucoup de questions encore ce soir. Vous restez avec nous, on continue à en parler dans un instant dans les grandes voix. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
18h41, on continue ce soir à parler de ces révélations dont on vous parlait sur l'antenne d'Europe 1 des 18h, révélations du Monde dans l'affaire, le scandale Pegasus, avec Emmanuel Macron, le président, plusieurs ministres, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui ont été écoutés par ce fameux logiciel israélien. Quelles mesures peut-on, Stéphane Vernet, directeur de la rédaction de Ouest France, prendre vis-à-vis du Maroc, si bien sûr cela est avéré? C'est une question qui est complexe parce qu'on a une relation compliquée avec le Maroc, qui a bien sûr la coopération entre nos deux pays sur la question antiterroriste, sur l'immigration, sur les mineurs isolés. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire?
Écoutez, honnêtement, je ne sais pas. Je pense que d'abord, c'est de l'ordre de la diplomatie. La diplomatie, ça commence par des mots. Donc voilà, il va y avoir une explication franche et cordiale. En fait, ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que on n'est jamais mieux trahi que par ses amis. Jérôme Sainte-Marie rappelait tout à l'heure que la NSA a écouté Nicolas Sarkozy, François Hollande au début des années, dans les années 2010. Là, il y a un autre consortium de journalistes qui a révélé qu'en fait, la NSA avait travaillé avec les services secrets danois pour espionner Angela Merkel. Ouais. En fait, c'est une pratique, malheureusement, qui est assez courante. Et encore une fois, on voit que même nos amis, en fait, nos alliés proches, utilisent ces technologies-là pour nous espionner. Qu'est-ce que ça doit être des gens qui ne sont pas nos concernant les gens qui ne sont pas nos amis. Moi, je me pose la question.
Jérôme Sainte-Marie.
Oui, enfin, on peut se poser la question, mais c'est vrai qu'on est tellement nerveux par rapport. On suppose très souvent les interventions d'autres services, notamment de services russes pour un oui ou pour un non. Certains avaient même suggéré, je me souviens encore, qu'ils étaient derrière les gilets jaunes, c'est-à-dire le genre de paranoïa dans lequel on tombe parfois. Et c'est quand même assez piquant, si vous voulez, de si peu réagir quand on a des preuves avérées. Je pensais notamment à la NSA, là, en l'occurrence. C'était un événement il y a 6-7 ans. Là, c'est vrai que ça devient quand même, une fois que c'est révélé, je comprends bien qu'il y a la diplomatie, que beaucoup de choses doivent s'arranger par derrière, que personne ne doit perdre la face, notamment les dirigeants marocains. Mais là, ça devient quand même une question, comment dirais-je, de dignité nationale, tout simplement.
Didier François, qui est avec nous également d'Europe 1, chargé des questions de sécurité en France. Didier, le service de renseignement chargé de la lutte contre le contre-espionnage, c'est bien sûr la DGSI. Est-ce qu'il est possible que cela soit passé sous les radars de la DGSI?
Alors oui, parce que en fait, après, il y a 1000 lignes. Enfin, grosso modo, les sélecteurs techniques qui ont été donnés, ce qu'on appelle les sélecteurs techniques, en fait, un numéro de téléphone qui a été fourni à l'entreprise, qui est chargé ces 1000 pour la France, c'est pas grand-chose. Après, on a des moyens. Honnêtement, en France, on fait partie quand même des pays qui avons et on a une entreprise qui s'appelle Tetris, qui a la capacité justement de vérifier sur les téléphones si oui ou non ils ont été infectés par Pegasus. Il y a deux boîtes américaines aussi qui sont capables de le faire. Qui ont CrowdStrike et Lookout, mais qui sont. On a vraiment cette spécificité en France, donc on aura les moyens de le savoir. L'ANSSI peut le faire, la DGSI est capable de le faire, la direction technique de la DGSE est capable de le faire. Donc on a ces capacités, évidemment. Après, maintenant, il va falloir aller travailler techniquement sur les téléphones, et c'est ce qui est en train de se faire, j'imagine. Puis après, il y aura une décision qui sera prise d'ordre, là, pour le coup, diplomatique. On est dans du renseignement, donc moi je veux bien qu'on s'offusque, mais le but du jeu dans le renseignement, c'est d'obtenir le maximum de renseignements au détriment de l'autre. Donc grosso modo, une fois qu'on les a chopés la main dans le sac, eh ben, on va négocier et on va voir ce qu'on va récupérer. Le but du jeu, à la limite, si ça nous permet nous d'avoir accès à un certain nombre de choses, on va demander par exemple à pouvoir avoir accès à ce à quoi ils auraient eu, à des comptes rendus, etc. Enfin, après, il n'y avait pas d'acte offensif, sens où il n'y avait pas de tentative de destruction.
39-21, je voudrais qu'on donne la parole à nos auditeurs. Bonsoir Jean-Claude, vous nous appelez de Brive.
Oui, bonsoir Europe 1, bonsoir à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Alors, d'après ce que j'ai compris, ce logiciel Pegasus permet de s'infiltrer dans les mobiles smartphones, type Apple, iOS ou Android, d'écouter ce qui se dit, ou voir le possesseur avec la caméra, ou d'explorer le contenu, voire le modifier. Seulement, depuis 2016, il y a un nouveau protocole de communication qui est apparu. Ça s'appelle le VO Wi-Fi, qui permet de téléphoner sur une ligne Wi-Fi de box Internet, ou même de borne Internet en entreprise. Avec ceci, on peut également se balader dans le réseau d'une entreprise et aller vider les ordi, les serveurs ou les visiter.
Ah, votre question, de la même façon. Est-ce que ça peut toucher les ordinateurs, c'est ça?
Eh oui.
Réponse
ça ne s'arrête pas qu'au mobile.
Je suis désolé, je ne connais pas, j'ai pas la réponse technique aux capacités exactes de NSO. Si on les avait, je pense qu'on ne les donnerait pas, parce que j'imagine que les gens qui le savent ont besoin de savoir comment ça marche. Donc
je ont remplacé les boîtiers FM2. Voilà. De l'époque. Maintenant, ça s'appelle le VO Wi-Fi.
D'accord. Merci, merci, merci à vous, Jean-Claude. Merci de nous avoir contacté depuis Brive. C'est une entreprise israélienne qui a développé la technologie et l'a vendue au Maroc. Est-ce qu'il faut également, finalement, mettre l'État hébreu devant ses responsabilités, Stéphane Vernet?
Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est plus difficile de se fâcher avec ses amis que de se fâcher avec ses ennemis. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, effectivement, il peut y avoir des négociations. Après, moi, ce que je vais rebondir par rapport à ce que vient de dire Jean-Claude. En fait, je pense que cette histoire, c'est que la partie visible de l'iceberg. Mais derrière, il y a des choses énormes. On parle du groupe NSO et les Israéliens, là, ils sont pris la main dans le sac. En réalité, c'est parce qu'aujourd'hui, sur cette technologie-là, c'est eux qui sont les plus performants, ils ont un coup d'avance, mais ils ne sont pas les seuls sur le marché. Moi, je vous rappelle qu'il y a aussi des entreprises françaises. Mmh. On avait vendu on est soupçonné d'avoir vendu des logiciels espions à la Libye, à l'Égypte, à la Syrie, des logiciels français de surveillance d'Internet. Mais en réalité, tout le monde le fait. Alors, il y a les entreprises qui le font pour le compte des États. Cette entreprise, ce groupe israélien, se targue de ne vendre, je mets des guillemets avec les doigts, des solutions qu'aux pays amis d'Israël, et donc de choisir ses clients. Mais je pense qu'il y a dans l'offre générale aujourd'hui et le marché mondial qui existe autour de la cybercriminalité ou les entreprises de cette nature, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup moins de scrupules, que tout est possible et qu'il y a énormément de choses qu'on ne voit pas, y compris, là on parle de surveillance ou d'espionnage d'État à État, mais en réalité, au quotidien, on est tous traqués, surveillés, pistés par des gens qui nous piquent des données et qui nous espionnent à des fins commerciales, sans arrêt.
Rapidement, pour terminer, Jérôme Sainte-Marie.
Oui, je crois qu'il y a plusieurs façons d'être naïf. Alors, on peut être naïf en disant « c'est pas bien, ça devrait pas exister ». Mais il y a une façon pire d'être naïf, c'est de dire « nous aussi on le fait, alors pourquoi on se laisserait pas faire ?» Non, la question est de savoir justement de ne pas se laisser faire, c'est-à-dire de réaffirmer effectivement sur ce dossier aussi une souveraineté. Ça touche nos intérêts, ça touche notre président en l'occurrence. Et puis enfin, on sait très bien que ça peut toucher aussi nos intérêts économiques. Enfin, des affaires comme les grandes négociations sur nos industries stratégiques. C'est-à-dire que si cette fois-ci on ne marque pas un point d'arrêt, on voit pas très bien comment on pourrait être respecté à l'étranger. Et pour reprendre l'exemple du Maghreb, certes, le Maroc ne va pas perdre la face, mais enfin, c'est tout ça est très lié aux relations avec l'Algérie, à travers le Sahara occidental notamment. Les Algériens aussi, si on se laisse faire, auront pour nous le respect qu'on mériterait à ce moment-là.
Allez, voilà pour ce dossier Pegasus et ses révélations. Ce soir, on continue bien sûr à en parler dans le journal de 19h. Je libère Didier François, je vous remercie beaucoup. Merci Didier, à tout à l'heure. Et puis vous restez avec nous, messieurs, dans un instant, on va parler de la droite. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Allez, la suite de vos grandes voix ce soir après Pegasus, on va parler de la droite. Avec nous Jérôme Sainte-Marie, politologue, et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction de Ouest France à Paris. Qui portera les couleurs des Républicains en 2022 alors que Xavier Bertrand fait cavalier seul? On le sait, 5 candidats potentiels du parti se réunissaient cet après-midi à Paris. Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Michel Barnier, mais également Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs LR, et Philippe Juvin, maire de la Garenne-Colombes. L'idée, c'est de trouver un terrain d'entente pour un grand rassemblement derrière une seule candidature. C'est possible ou pas, Stéphane Vernet?
C'est pas gagné, parce que déjà, il en manque un. Donc voilà, si, en fait, il y en a 6 qui sont prétendants, qui veulent être candidats à la candidature. Vous les avez cités, mais celui qui fait la course en tête pour l'instant, c'est Xavier Bertrand.
Dans les sondages, il est à combien? 15, 16, 17?
Alors, c'est tout le problème de Xavier Bertrand et c'est tout le problème de la droite. En réalité, l'année prochaine, il est très possible qu'il y ait une alternance. Mmh. Et si alternance, il peut y avoir, en tout cas, si on veut avoir quelqu'un d'autre au second tour que Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ouais, la possibilité, manifestement, à l'heure où on se parle, l'ouverture est à droite. À la condition que la droite soit capable d'y aller unie. Ils veulent créer la fameuse équipe de France, une équipe de France qui les ferait gagner. Ils ont besoin de se réunir. La réunion d'aujourd'hui, elle est symptôme du fait qu'ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Simplement parce que pour qu'il y ait un candidat naturel qui s'impose, donc en l'occurrence, par exemple, Xavier Bertrand, il faut qu'il passe la barre des 20% d'intention de vote au premier tour de la présidentielle dans les sondages. Le jour où il pourra se présenter durablement comme celui qui est potentiellement capable d'être au second tour l'année prochaine, le match est plié en fait. C'est-à-dire que tout le monde pourra se ranger derrière lui. Sauf que là, ça ne bouge pas. Et moi, pour terminer, ça me rappelle la blagounette de la candidature La République En Marche à Paris. Vous aviez 2 candidats qui se tiraient la bourre, je vous rappelle, Benjamin Griveaux et Cédric Villani. Et pendant plusieurs mois, le parti se disait « on va les laisser se départager, il y en a un qui va créer une dynamique et donc qui va surclasser l'autre ». Ça ne s'est pas produit. Le résultat, c'est qu'ils ont été complètement hors course à l'arrivée. Et c'est le même effet, le même problème qui pend au nez de la droite aujourd'hui. Donc s'ils attendent trop longtemps, ils risquent de se disqualifier tout seuls, ils ont intérêt à trouver une solution rapidement.
Jérôme Sainte-Marie, le pari de Xavier Bertrand de ne pas aller à la primaire, de jouer finalement hors les Républicains, cela peut s'avérer gagnant. Il peut arriver à passer finalement en force.
C'est pas joué. Ce qui est certain, c'est comme l'a exprimé Stéphane Vernet, c'est le fait que ce qui va décider en réalité, c'est largement les sondages, et plus précisément les sondages d'intention de vote à la présidentielle. Si de manière claire et nette et durable, Xavier Bertrand non seulement dépasse les 20%, mais même semble devoir se qualifier pour le second tour, Et si c'est confirmé, parce que là, on est en plein été, hein, faut, donc les gens ont un peu la tête ailleurs, y compris quand ils répondent aux sondages, faut être honnête. Et donc, si effectivement, en septembre, eh bien, on se rend compte que ça s'installe, Xavier Bertrand prend un vrai avantage. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce qu'il y a beaucoup de candidatures, pour l'instant, souverainistes de droite. Il y a l'hypothèse de la candidature Zemmour qui ne prendra pas que des voix à Marine Le Pen, mais aussi à la droite classique. Par ailleurs, actuellement, on a, c'est vrai, plutôt un affaiblissement du couple Macron-Le Pen dans les intentions de vote. Mais ça tient aussi au fait qu'on sort des régionales qui ont été un très mauvais cru pour les deux et que les gens sont un peu ailleurs. On ne parle plus de réforme, on ne parle plus de grand-chose d'ailleurs en réalité. Et donc, malgré ça, pour l'instant, Xavier Bertrand n'est pas qualifié pour le second tour dans les sondages. Alors que la période lui est profitable et qu'il surfe sur la bonne image qu'il a donnée dans les élections régionales. Donc ça me semble effectivement très peu... ça me semble rien n'est joué. Il aura beaucoup de mal quand même, s'il ne veut pas apparaître comme un diviseur, à persister, à refuser la primaire. La primaire, encore une fois, elle a mauvaise presse depuis 2017, mais autrefois, c'était le sésame de la victoire.
Et puis, il y a le process quand même de la primaire. Les candidats devront se déclarer avant la fin du mois d'août, moment où sera lancé par le parti un grand sondage auprès de 15 000 électeurs. Viendra une campagne au mois d'octobre avec un vote électronique à un tour en novembre et les électeurs seront sur un fichier de sympathisants. Écoutez, c'est juste une usine à gaz, Stéphane Vernet, non ?
Mais ça, c'était le scénario que suggérait Bruno Retailleau depuis plus d'un an. Enfin, depuis un an maintenant, en fait, il a pas été suivi. Moi, je pense que les Républicains ont perdu beaucoup de temps en attendant, en espérant que Nicolas Sarkozy, à un moment, serait le candidat qui s'imposerait naturellement, que François Baroin allait y aller. Et en fait, il y a eu beaucoup de manœuvres dilatoires. Mmh. L'idée, en fait, de cette primaire qui a l'air très compliquée, c'est surtout qu'elle soit très différente de la dernière, celle de 2016.
Où ça avait tourné à
Ça n'a pas, on ne peut pas dire que ça a très bien marché. Ouais. Et en fait, l'idée d'un Bruno Retailleau, par exemple, c'est de dire, en réalité, les gens se divisent comme jamais entre les deux tours de la primaire. C'est-à-dire quand vous avez le ton qui monte, les pics qui sont lancés, etc., les gens se déchirent et c'est impossible. C'est
de très recoller les morceaux.
Ben oui, c'est-à-dire qu'après,
c'est pas évident. C'est pas évident, vous savez, François Hollande l'avait emporté en 2012 après une primaire. Donc c'est... Non, ce qui est un peu...
Qui n'avait pas été tendre, on se souvient des propos
de
Marc Le
Bris,
par exemple.
Et le choix des Républicains, pour tout dire, et c'est un sondeur qui parle, est un peu curieux d'avoir choisi cette solution du sondage parce qu'on ne combat pas de multiples sondages d'intention de vote par un sondage fait uniquement auprès de sympathisants. Inversement, face au sondage d'intention de vote, si on avait le vote de 4 millions de personnes comme la dernière primaire de la droite, là, ça aurait une efficacité. Le vote est supérieur au sondage, grâce à Dieu. Donc grâce à la démocratie. Mais un sondage contre un sondage, ça laisse, une certaine liberté à Xavier Bertrand.
Ça mérite peut-être de se laisser du temps, finalement, pour trouver le bon candidat à un moment.
Alors, je crois que s'ils ne renoncent pas à cette procédure uniquement par sondage, leur force en quelque sorte d'intimidation, ou plutôt la force de légitimation, c'est ça qui est important, c'est la force de légitimation de la primaire est perdue. Parce que ça sera uniquement un sondage plus petit qu'un autre sondage, que d'autres sondages qui vont devenir maintenant hebdomadaires, pour ne pas dire quotidiens. Ouais. À la rentrée, c'est les sondages, bien sûr, sur l'ensemble des Français qui l'emporteront sur les sondages faits auprès des sympathisants de droite.
Jérôme Sainte-Marie et Stéphane Vernet, vos grandes voix ce soir. Merci à vous deux, belle soirée. Merci beaucoup.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Dans un instant, le fil info avec Sophie Tussaud, mais Europe Soir l'été, vous le savez, c'est aussi de la musique pour vous accompagner, on en a bien besoin ce soir. Kyo sur Europe 1.
Ce soir, j'ai le mal de mon époque. Je remplis des pages, ce soir, je noircis des blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores, s'éclater les cordes vocales, mais c'est du sport. Pas la même ligne de départ, pas la même ligne d'arrivée. Tous nés sous un cimetière d'étoiles, mais pas tous aussi bien aimés. Ma vie un backstage, mon futur un blind test. Toujours en quête, à la prochaine quête. Je suis mal dans ta peau, t'es mal dans la mienne. Ce soir, je mets de mon époque. Je remplis des pages, ce soir, je noircis des blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores. S'éclater les cordes vocales, mais c'est du sport. Ce n'est pas ton jour, pas ton mois, pas ton année. Le bonheur court toujours après l'horizon. Vol d'oiseaux blessés. Ma vie un backstage, mon futur un blind test. Toujours en quête de la prochaine fête. Je suis mal dans ta peau, t'es mal dans la mienne. Ce soir, j'aime de mon époque. Je remplis des pages, ce soir, Je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul. Oh, je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul.
Mon époque, Kyo, dans Europe Soir.
Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.